Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation, le dernier vendredi du mois. Guy Le Polarski au micro, vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec un membre éminent de cette association, un de ses ex-présidents, Hervé Delouche, qui est avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour.
Eh bien, bonjour Guy, c'est éminent que tu dis à chaque fois.
Ben oui, voilà. Hein. Merci d'être fidèle à notre rendez-vous. Alors, au sommaire aujourd'hui, Hervé, des valeurs sûres du noir français. Enfin, nous nous arrêterons plus particulièrement sur le dernier roman de Pascal Dessin, Un homme doit mourir, aux éditions Rivage. Un roman qui résonne d'une certaine actualité. Nous évoquerons aussi un recueil de nouvelles de Patrick Péchereau, intitulé « Dernier été » paru aux éditions Scoop. Voilà, donc Un homme doit mourir, le dernier roman date de Pascal Dessin, roman noir aux éditions Rivage. Alors je disais qu'il résonne d'une certaine actualité, il s'agit de ZAD, hein, puisque ce roman aborde cette question. Alors on n'est pas à Notre-Dame-des-Landes, Hervé, mais on est un peu au sud, hein, on est dans les Landes.
Le précédent roman de Pascal Dessin, on était tout au nord, pour Le chemin s'arrêtera là, qui avait d'ailleurs obtenu le prix Ami Lamecker. Et là, on est sur la côte atlantique, dans les Landes. Il y a des forêts de pins, il y a des dunes, bien évidemment. Il y a un site naturel, en théorie, pour grande part, qui devrait être préservé. Et puis, il y a une menace d'installer une unité de stockage avec des matières qui ne sont pas particulièrement bonnes pour l'environnement, la nature et les hommes. Et il y a des zadistes qui s'opposent à cela. Et puis, il y a d'autres choses qui s'entremêlent, et il y a un récit, après une introduction, à mon avis remarquable, métaphorique, très bien, et après il y a un récit qui s'entremêle de deux personnages très différents qui vont porter l'action, le suspense, et peut-être on peut dire un mot de Boris et d'Alexis.
Voilà, hein, donc de personnages, hein, qui ne se connaissent pas du tout, hein, qui viennent de milieux complètement différents. Donc Boris est un naturaliste expert, hein, de ces questions de nature et d'emprise sur la nature de projets industriels, expert non pas auprès des défenseurs, hein, de ces ZAD, de ces zones à défendre, ces zones naturelles mises en danger, mais auprès des industriels qui veulent implanter ces projets controversés dans certains territoires.
Autrement, un spécialiste de la contre-expertise, comme on dit,
voilà,
que les industriels mettent en place pour contrer les défenseurs de l'environnement en général, mmh. Voilà.
Alors on peut considérer, Hervé, qu'il a plus ou moins vendu son âme au diable, hein, en quelque sorte, puisqu'en général, quand même, ce type de scientifique est plutôt sur des positions de défense, hein, de la nature,
oui,
des animaux.
Il est, au début du livre, quand il se présente, il dit qu'il est... bon, avec sans doute un brin et d'ironie et d'amertume, qu'il est au service des méchants, mais il a aussi on peut dire qu'il a des états d'âme, je crois.
Voilà, des doutes, hein, des doutes. Et surtout, bon, il a quand même des sympathies pour un autre naturaliste, alors qu'il lui est, j'ai noté ça,
parce que...
Pépé, voilà, Pascal, Paul Polisset, qui est odonatologue, hein, donc qui est spécialiste des libellules, et il s'avère que ce naturaliste va lui découvrir une libellule, une espèce très rare, protégée.
La cordulie à corps fin.
Voilà, hein, qui permettra à Pascal Dessin un jeu de mots assez rigolo. Et
pour rester dans les jeux avec les mots, c'est amusant parce qu'il y a tout un projet qui est évidemment mis en place, et comme cette cordulie est une espèce protégée, et ben dans ce pays de dunes, c'est un grain de sable qui va enrayer la machine, parce que ben on peut pas détruire l'environnement de la cordulie à corps fin.
Voilà. Et donc, il y a pas mal de clins d'œil, hein, comme ça, dans ce roman de Pascal Dessin. Alors donc, on suit Boris, hein, en parallèle, c'est entrecroisé, tu l'as dit, hein, les deux, les deux parcours, hein, de Boris et Alexis, avec une petite, un personnage là, un peu intrigant. Qui un oncle de Boris, hein, qui se trouve pas très loin du lieu aussi, hein, de cette ZAD que l'on croise parfois, que Boris croise parfois, sans vraiment qu'il y ait de contact. Donc là, on sent déjà, hein, une première intrigue qui se met en place.
Oui, c'est ça qui est très. On dévoilera pas.
Non.
Trop, on va parler de Boris maintenant, d'Alexis maintenant, c'est ça, c'est qu'il y a la grande réussite, à mon avis, de Pascal Dessin, il y a déjà deux éléments forts, je crois. Pascal, il nous avait habitués à ce qu'on appelle le roman choral ces derniers temps, c'est-à-dire avec plusieurs voix. Là, dans ce roman-là, il l'a resserré avec ses deux voix, qui se réuniront, enfin en tout cas que voilà, l'histoire réunira dans un chapitre final, et je pense que c'est vraiment une réussite, ce resserrement sur deux voix, pour l'intensité du livre, et puis aussi le fait que, bah, comme on l'a dit, il y a cette question centrale de cette ZAD-là, disons, mais il y a un certain nombre, il y a des personnages et des péripéties annexes qui vont faire rebondir ça en un bouquin qui est par ailleurs un vrai suspense jusqu'au bout.
Tout à fait, hein, et dont le titre est « Un homme doit mourir », et donc effectivement, hein, il en est question aussi. Alors, Alexis, lui, est chef d'entreprise, il se présente comme un bûcheron, hein, mais bon, c'est un exploiteur du bois, de forêt.
J'étais trafiquant d'arbres en toute légalité.
Voilà. Et donc, qui est appelé par un de ses amis, un peu à la rescousse, qui est installé, cet ami, dans les Landes, hein, qui occupe une villa, tu l'as déjà évoqué, hein, cette villa, on la découvre en introduction du roman, vraiment implantée sur un lieu où il ne devrait pas y avoir effectivement de villa en bord de mer, sur une dune qui a même été rabotée en partie pour l'installation de cette villa.
Oui, c'est quand même ces deux premières pages que j'ai évoquées très fortes, qui elles n'appartiennent pas à, qui appartiennent à la narration et pas à l'un des deux personnages qui racontent, et qui il y a un paragraphe où il dit l'homme s'est vraiment tout permis, et pour bâtir cette villa, il a fait araser la dune afin de pouvoir goûter pleinement le paysage, l'océan à perte de vue. C'est-à-dire qu'il a cassé une chose qui paraît totalement et absurde et insensée, mais évidemment en achetant le maire local et en passant par-dessus certaines réglementations, eh bien il a plié la dune a sa volonté de bâtir cette villa qui aura toute son importance elle aussi dans le récit jusqu'à une fin car par ailleurs dans ce territoire des Landes il y a une tempête qu'on attend et qui jouera son rôle.
Alors, donc, nous disions Boris avec quelques doutes. Par contre, du côté Alexis, c'est donc l'ami qui le rejoint, aucun doute, hein, mais par contre, beaucoup de cynisme avec la nature, on vient de le voir, mais aussi avec les hommes et inversement. Hein, ce sont des chefs d'entreprise qui ne se posent aucune question sociale, hein, bien au contraire, un seul objectif, le profit.
Tout sera bon pour ce genre d'individu. Oui, juste le final possède aussi une certaine part de cynisme et aussi une certaine part de beauté parce que, comme j'ai dit, ils ont semé le vent, ils récolteront la tempête, mais la nature reprendra aussi ses droits. Mais en même temps, il y aura aussi une sorte les hommes peuvent se transformer un peu, certains ne se transforment pas complètement quand même.
Voilà, donc pour revenir hein, donc sur l'idée générale du roman, tu l'as dit, vraiment entrecroisement entre ces deux personnages, mais au-delà entrecroisement entre des préoccupations environnementales, écologiques et des préoccupations sociales et quelque part, cet homme qui doit mourir, hein, un homme doit mourir, on le retrouve un petit peu comme ces insectes hein, qui viennent se jeter sur les pare-brises des voitures. Et beaucoup de symbolique. En tout cas, je trouve que Pascal Dessin a réussi parfaitement à réunir ces deux préoccupations environnementales, écologiques et sociales qui ne s'opposent pas hein, et qui, au contraire, doivent converger. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Je pense la même chose que toi. Pour moi, vraiment, ce roman, c'est une grande réussite de Pascal Dessin. Pascal Dessin, c'est quelqu'un qui a, de manière originale d'ailleurs, qui a placé la question écologique au centre de son œuvre romanesque, mais sans du tout... Enfin, on s'entend, il est bien évident que ces livres sont pas sous la forme évidemment de pamphlets ou de livres à thèse ou de choses comme ça, mais la nature, mais pas simplement la nature au sens du nature writing, même s'il parle de belles façons de la nature, au sens des préoccupations, et comme bon, ça avait déjà été un peu ça avait déjà été le cas avec, par exemple, Les Derniers Jours d'un Homme, mais il est évident que la symbiose de l'écologique et du social est totalement réussie, avec un roman en même temps absolument passionnant. C'est amusant parce que j'étais retombé sur une des dernières chroniques de Jean-Patrick Manchette en 95. Qui disait « Depuis une petite lurette, l'écologie fait des apparitions dans le roman noir ». Et c'était, en 95, c'était il saluait un roman, mais il saluait des romans américains à l'époque, et notamment un livre qui s'appelait « Gangrène » de Elisabeth Strom. Et à cette époque, Pascal Dessin faisait ses débuts, je crois que c'est l'année où il publiait « La vie n'est pas une punition », et ben on peut dire que, disons, 20 ans après, enfin bon, voilà, avec ce livre-là, on a vraiment une quintessence de ce qu'est un roman noir absolument réussi, c'est-à-dire sur le côté critique de notre monde et en même temps sur la réussite d'un roman, d'un polar, d'un roman d'aventure, d'un roman écrit de très belle façon, etc., et très prenant jusqu'au bout avec des rebondissements. Une fois de plus, évidemment, on ne peut pas la raconter. Je trouve que le chapitre final, enfin en tout cas ce qui se passera sur la dune, est un moment, un très beau moment, très cinématographique.
Oui, très prenant. Oui, très très prenant. Je suis complètement d'accord. D'ailleurs, je me faisais cette remarque. Moi, bon, il est parfois pas simple de se plonger dans le roman d'un auteur que l'on côtoie, puisque Pascal Dessin, tu l'appelles Pascal. C'est vrai, c'est quelqu'un que nous côtoyons.
On le connaît bien.
Voilà, nous côtoyons régulièrement ici à Arras. Hein, il est régulièrement présent au salon. Il a eu obtenu le prix Amila Mecker. C'est un ami de la Association Colère du Présent qui organise le salon du livre du 1er mai. Donc, il n'est pas toujours.
L'association 813 aussi.
En plus, voilà.
Pour ces raisons qu'on en dit du bien.
Voilà, je te laisse le dire hein, par rapport à 813. mais donc, pas toujours simple hein, de se plonger comme ça dans le roman d'un auteur que l'on connaît. Alors, pour le coup, on oublie très vite qui se cache derrière. Derrière l'histoire, derrière le roman, et ça démontre hein, pour moi que c'est vraiment quelque chose de très prenant, même si bon, il y a la patte quand même Pascal Dessin sans grand discours savant, pas non plus de certitude, mais quand même toujours des références très précises, que ce soit bon au milieu des naturalistes aussi. Pascal Dessin aime beaucoup citer hein, des auteurs qu'il aime bien et des auteurs notamment engagés sur le même terrain que lui, mais donc une écriture très très précise. Un petit exemple. Donc c'est Boris qui parle. Sur une petite île découverte par la marée vers le milieu du lac, les limicoles étaient plus tranquilles. J'ai compté 7 bécassos variables, 8 grands gravelots, 6 barges rousses, 3 pluvies argentées, 1 bécasso maubèche ainsi que 6 courlis cendrés. Je n'avais pas vu de pluvies argentées et de maubèche depuis longtemps. Je n'ai noté que dans mon carnet, sans que pour autant ça ait de réelle valeur. Le comptage sur un lieu a de l'intérêt. S'il est régulier sur une période longue comme ces oiseaux, j'étais de passage. Une espèce de migrateur avec le ventre qui réclamait sa pitance. Et le ventre qui réclamait sa pitance, on retrouvera quelques instants après Boris en train de déguster des huîtres. Voilà.
Oui, vraiment, c'est ça aussi le grand talent. Moi, je me souviens, par exemple, pour un roman qui se passait alors là du côté des étangs de la Brenne, qui est Cruelle Nature et qui s'ouvrait avec un chapitre où c'était une espèce très rare et locale de tortue qui traversait la route. Oui. Et de même que là, ce que tu dis, ce que tu racontais sur les animaux, là, sur le fait, la scène où juste après ils dégustent des huîtres avec Pépé, ce qui amène aussi leur conversation. Pascal, il a aussi tout un talent pour décrire ces scènes-là. C'est-à-dire que, voilà, on est très très loin d'un livre qui ne serait qu'un ennuyeux affrontement d'idées et de positions. On est vraiment dans de l'observation curieuse et passionnée des êtres vivants, qu'ils soient hommes ou animaux, ou la nature.
plante l'aiguille au cœur à 130 à l'heure.
Variation noire dans Variation sur Radio PFM, Paul Person, Petite Bestiole, un extrait de l'album qui date de 1994, pas vraiment tout récent, mais en écho du roman de Pascal Dessin, album qui s'intitule « Rêve sidéral d'un naïf idéal ». Alors Hervé, j'aurais pu choisir un extrait d'un disque de Miossec, puisque en exergue de son ouvrage, Pascal Dessin cite Miossec, « Doit-on toujours protéger l'espèce ?» avec un point d'interrogation. Mais j'ai préféré ces petites bestioles, hein, parce qu'elles sont quand même nombreuses dans le roman de Pascal de Dessin. Hervé, tu es toujours...
Je suis toujours avec vous, non, ah ben j'apprécie beaucoup ton choix.
Alors, en parlant de bestioles qui sont un peu plus grandes, celles-là, une autre actualité de Pascal Dessin, La trace du héron, un texte hein, publié par les éditions les éditions du Petit Écart. Donc c'est une maison d'édition qui s'est créée récemment et qui fonctionne sur la base de diffusion à partir de souscription. Hein, donc,
oui, tout à fait. Tout à fait, avec un très beau travail éditorial, un très joli petit livre, très vraiment bel objet et qui, si j'ai bien compris, propose à des auteurs de publier un texte un texte court et un peu à part de ce qu'ils écrivent, enfin qu'ils soient un peu un texte qu'ils ont envie de faire, voilà. Et je sais que ça va être assez raccord avec la suite.
Exactement.
Les suivants seront de Patrick Péchereau. Et puis ensuite de Marin Le Dain.
Voilà, donc Marin Le Dain, qui est aussi remercié par Pascal Dessin, qui vit dans les Landes, et je pense que les deux auteurs se sont croisés hein, au moment de l'écriture du roman de Pascal Dessin. Et donc oui, tu l'as dit, donc prochaine auteur hein, qui sera proposé par le petit écart Patrick Péchereau. Alors tout de suite, hein, si vous êtes intéressé par les ces courts textes hein, de petit écart, il faut aller voir le site hein, vous des éditions pour le commander les livres directement. Hein, donc édition du petit écart, vous trouverez ça sur internet. Donc nous voilà donc arrivé à Patrick Péchereau qui publie un recueil de nouvelles, ou plutôt c'est un, on va dire un éditeur, un petit éditeur qui a choisi de publier des nouvelles assez rares. L'une est inédite d'ailleurs aussi de Patrick Péchereau. Ça s'appelle Dernière été et autres nouvelles, et ce sont les éditions Scup. Un petit mot, Hervé, des éditions Scup, il me semble que tu connais.
Bah, les éditions Scup, pour ce que j'en sais, elles ont été créées par quelqu'un qui s'appelle Michel Le Bailly, qui parmi plein d'autres choses a tenu pendant un certain nombre d'années une librairie Goscinny dans le 13e arrondissement Nouveau Quartier, c'est-à-dire ce qu'on appelle le quartier de la Bibliothèque Nationale de France. Grand amateur de Goscinny, mais aussi de bande dessinée en général, et de littérature. Je crois que je te l'avais dit, mais c'est dans ces locaux qu'on avait fait avec Patrick Péchereau et avec Laurent Mecker et Nan Rousseau, une des premières rencontres d'hommage à Jean-Amila Mecker. Et les éditions Scup, se sont mises à publier un certain nombre de livres, parmi lesquels plusieurs livres de Denis Langlois. Ils ont repris un livre de Patrick Péchereau qui était pour la jeunesse, mais que je recommande vivement, qui au départ était publié aux éditions Syros, qui n'ont pas continuer, disons, la distribution, enfin, voilà.
C'est le voyage de Phil, c'est ça ?
Le voyage de Phil, voilà. Qui était un livre qui ça intéresse forcément les amateurs de romans policiers, puisque, et de 813 aussi, puisque ça revenait sur Marius Jacob, ce travailleur de la nuit anarchiste dont Maurice Leblanc couvrit le procès et qui inspira en partie, en tout cas, le personnage d'Arsène Lupin.
Voilà, alors, donc...
Bon, et là, oui. Vient de sortir, effectivement, chez Scup, le recueil Dernier été.
Voilà, donc on ne va pas s'étendre sur ce livre, il nous reste peu de temps. L'objectif, c'était de l'évoquer, d'autant plus que nous reviendrons, hein, je pense, dans les prochaines émissions sur Patrick Péchereau, puisque une actualité s'annonce, hein, un nouveau roman qui doit sortir fin mars en série noire.
Hevel, qui fait des allers-retours... qui se passe essentiellement en janvier 1958, du côté du Doubs, enfin dans ce voilà, avec deux camionneurs, et puis la guerre d'Algérie derrière, et puis l'un d'entre eux qui en 2018 se confiera à un écrivain, voilà.
Pour l'instant. Nous y reviendrons. L'idée, c'était...
Mot, oui. Sur Dernier été,
oui.
C'est des nouvelles vraiment où on retrouve complètement l'esprit, les thèmes sur la mémoire, sur la guerre, de Patrick Péchereau, la nouvelle qui donne son nom, on raconte une histoire venant d'un... Que peut raconter le tableau, un tableau de Frédéric Bazille qui s'appelait Réunion de famille, et tout ça, interprété par un soldat de la guerre de 1870 de retour des combats après avoir traversé la Commune de Paris. Enfin, on voit là des thèmes, la guerre, la Commune, qui ont déjà hanté certains livres de Péchereau. Et puis la nouvelle Trimarque.
Quand même, Hervé, voilà. Dire que Frédéric Basile, peintre impressionniste, est mort justement. Hein,
Absolument.
Une petite trentaine d'années, 29 ans, je pense, hein, lors de cette guerre de 70. Et c'est là-dessus hein, que, bien sûr.
Voilà, absolument. Le rescapé qui était son compagnon, si on peut dire, de bataille, c'était l'autre, était son lieutenant. Et il va rendre visite à un écrivain très célèbre de l'époque qui s'appelle Émile Zola, et tout ça nous donne un peu comme des poupées russes. Enfin, il y a quelque chose de... C'était extrêmement subtil comme et en même temps extrêmement, comme toujours, très humain. Voilà, on sent aussi ce qu'était la guerre, ce qu'elle fait des hommes. Et puis, voilà, la nouvelle Trimar, là, dont je voulais dire deux mots, était, c'est une,
oui,
une
Trimar,
nouvelle où,
qui a été reprise, hein, puisque elle avait été commandée pour le catalogue du salon Quai du Polaire, mais qui a été reprise en 2009 dans la revue 813.
Oui, parce que 813 avait consacré, il y a un certain nombre d'années de ça, un numéro spécial à Léo Mallet, qui est d'ailleurs épuisé, et Patrick Pécherot nous avait donné ce texte, qui est un texte qui s'appelle Trimar, qui fait là aussi bien voir le monde, là on est à Lyon, qui fait bien voir la Croix-Rousse d'alors, les fabriques, les quartiers prolétaires, la vie, le quotidien, ce qui intéresse beaucoup Pécherot, toujours à hauteur d'homme. Et c'était Nestor avant Burma, si on peut dire, que Nestor Burma et Léo Mallet sont chers à Patrick Pécherot, et c'était comment Nestor débarquait à Lyon avant 120 rue de la Gare, qui sera le premier roman mettant en scène Nestor Burma et qui se passe à Lyon.
Voilà, Hervé, merci beaucoup. Donc, des valeurs sûres, hein, je le disais en introduction de cette émission. Donc, lisez Pascal Dessin, Un homme doit mourir, aux éditions Rivage. Lisez Dernier été de Patrick Pécherot, Dernier été et autres nouvelles aux éditions Scup. Nous aurions pu aussi parler, mais je pense qu'il y aura d'autres occasions bien entendu, de Jean-Bernard Pouy, dont le roman Mazad est sorti en série noire début janvier, du roman qui va très prochainement sortir, Plus jamais seul, de Caryl Ferré, une histoire, enfin un roman autour de son personnage MacCage. Donc une actualité roman noir française riche en ce moment.
Les nouveaux romans de la série noire, en tout cas. Voilà, Dessin, Pécherot.
Et Pécherot, oui, effectivement, Evel, prévu fin mars.
Qui ont de l'atmosphère, des atmosphères différentes, mais des belles gueules d'atmosphère, en tout cas.
C'était Variation en noir dans Variation, le dernier vendredi du mois, une émission de radio PFM réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec Hervé Delouche. Hervé, merci pour cette très très belle conclusion, Hervé. Au revoir et rendez-vous, Hervé, dans un mois. Donc pour
avec grand plaisir. Merci Guy, merci Bernard, et bonne lecture à tous.
Voilà, donc rendez-vous dans un mois pour de nouvelles variations en noir.